stops you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Sally Bonne et Frédéric Bonnet pour parler ensemble de Francis Bacon en toutes lettres au Centre Pompidou et Torre Spalletti, Ombre d'Azur, à la Villa Paloma, nouveau musée national de Monaco. La carte blanche à Hassan Hadjadj, c'était la maison européenne de la photographie. Et puis il y aura un coup de cœur de Sally Bonne pour la page manquante. De quoi s'agit-il? Réponse dans une 35aine de minutes. Mais avant ce sommaire, ce début d'émission pour saluer la mémoire de Robert Franck, dont on a appris la mort hier à l'âge de 94 ans. Alors bien sûr, si l'on retient une seule chose du photographe, si l'on devait retenir qu'une seule chose, ce serait son ouvrage paru il y a tout juste 60 ans, Les Américains, soit 83 clichés en noir et blanc choisis parmi 23 000 images, fruit de 3 années d'errance dans les États-Unis. Un livre qui avait tendu à ce pays, un miroir dans lequel... Il révélait plutôt l'envers du rêve américain. Il était proche, Robert Franck, des écrivains de la Beat Generation, partie prenante de cette contre-culture qui allait changer la face de la seconde moitié du XXe siècle. Robert Franck, juif allemand, devenu suisse, puis américain, qui s'orienta ensuite vers le cinéma avec beaucoup de films. J'ai un souvenir précis de Candy Mountain en 87. J'avais pu rencontrer Robert Franck à cette occasion. Il était revenu entre-temps à la photographie dans les années 70, mais d'une façon nouvelle, proche de l'autofiction. On va écouter un très court extrait d'un entretien réalisé par le Jeu de Paume pour l'exposition que lui consacrait cette institution en 2009.
I always said the person I know best is myself, and that's what maybe interests me the most. So the movies I'll have to do something with my life or my personality, which was a mistake, really, which was just a mistake. But
il le disait, Robert Franck, je dis toujours que la personne que je connais le mieux est moi-même, c'est en tout cas celle qui m'intéresse le plus. Mes films ont donc à voir avec ma vie, ma personnalité. Ça a peut-être été une erreur, mais il n'avait pas fini cette phrase. Robert Franck, un petit tour de table, qu'est-ce que vous gardez de Robert Franck? Corinne Rondeau.
Ah bah les Américains. et Pull My Daisy, puisque c'est la première apparition, je crois, même de Delphine Seyrig. Donc je pense que je me rappelle à cause de Delphine Seyrig.
Dans ce film, donc.
Dans ce film, oui.
1900, je sais plus la date.
59. Ah oui, je crois que c'est un an après Les Américains,
d'accord.
58.
Ah ouais.
Avec le même ami, puisque Kerouac fait la préface des Américains pour la première, l'édition originale. Et il écrit le texte, et il le narre, toute la voix off, c'est Kerouac qui est sur ce film. Qui, d'ailleurs, on peut le voir parfaitement sur Internet.
En accès libre sur des plateformes de vidéos.
Voilà, donc ce que je retiens, c'est que c'est le fameux Les Américains, mais qui finalement, quand il est sorti, ça avait été une chose qui a été très mal prise aux États-Unis, puisque c'était vraiment une attaque, pensait-on, d'un Européen photographiant la dimension, je dirais, pauvre et problématique des classes sociales américaines. Mais donc, comme quoi, il n'y a pas de problème.
Hein.
Non,
bonne.
Mais bon, voilà.
Salut, bonne.
Oui, moi aussi Les Américains, et notamment j'avais lu dans un article paru dans Le Monde, enfin un entretien paru dans Le Monde en 94, que Robert Franck se disait un observateur de passage, et je trouve que la formule est assez belle, à la fois parce que Les Américains c'est ça, c'est une traversée des États-Unis, de ces paysages, de ces individus, il y a des foules, des trains, des bus, des voitures, et que cette formule-là d'observateur de passage, on la retrouve aussi dans les films. Je pensais effectivement à Pull My Daisy, et mais aussi à cet autre film complètement dingue, qui est Cocksucker Blues, le film qu'il a fait en suivant en fait les Rolling Stones. dans une tournée en 1972, et où il montre cette espèce de... qui reprend un petit peu cette manière qu'il a de regarder son entourage, les Américains, quand il fait ses photographies, c'est de montrer à la fois l'espèce de gloire merveilleuse du groupe de musique, et en même temps... des moments d'attente, des moments aussi de drogue, de sexe.
Mais c'est un film qui n'a pas réjoui les Rolling Stones.
Qui n'a pas du tout réjoui les Rolling Stones, mais qu'ils ont interdit sa diffusion. Ouais. Ils ont interdit sa diffusion totalement. Puis, il a fait un procès, en fait, Robert Frank, qu'il a plus ou moins gagné. Et la manière dont il l'a gagné, c'est qu'il avait le droit de le diffuser tous les 4 ans, en sa présence à lui. Mais bon, il se trouve qu'on
peut
le voir... C'est lui
qui la seule copie.
On peut le voir sur Internet, hein. Ouais. Voilà.
Aussi.
Oui, aussi.
Frédéric Bonnet, Robert Frank.
Oui, c'est un monument, évidemment. Libération et Le Monde, aujourd'hui, lui ont consacré la une. C'est quand même... Ça montre un peu l'importance de la chose. Et moi, ce que je trouve important chez Robert Frank, c'est qu'il s'est placé dans l'histoire avec un grand H, sans jamais nous raconter une histoire, mais en allant regarder systématiquement les marges, les à-côtés, à la fois sociaux, bon, Corinne et Sally viennent d'en parler, mais aussi on retient effectivement les Américains et tout ce travail-là, mais Robert Frank, ça a été également un travail expérimental de l'image, beaucoup de polaroïdes.
Polaroïdes grattées.
Notamment, exactement.
Collage.
Tout à fait, gratté, collage, annoté, avec beaucoup d'éléments biographiques.
Ça, c'est à partir des années 70, hein, quand il revient vers la photo.
Tout à fait. Et c'est un aspect qui, évidemment, est moins connu que ce monument qu'est les Américains, mais qui est tout aussi important, je crois, dans son travail. Et puis, des expositions ont déjà montré tout ça, mais bon, maintenant qu'il est mort, je pense qu'on va s'atteler à remettre tous les morceaux ensemble, et on va se rendre compte que... il y a une sacrée matière.
Sacrée matière, dont on aura, je l'espère, en effet, l'occasion de reparler plus longuement. Là, c'était une triste occasion, celle de la disparition de Robert Frank.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Nous reprenons le cours initialement prévu de cette dispute avec Francis Bacon en toutes lettres. C'est le titre de l'exposition qu'on peut découvrir à partir d'aujourd'hui au Centre Pompidou. Elle sera visible jusqu'au 20 janvier. Le commissaire en est Didier Ottinger, assisté d'Anna Hiddleston. La scénographie signée Laurence Fontaine. Le titre, Francis Bacon en toutes lettres, pourrait donner une indication assez évidente. On va quand même préciser que les salles de l'exposition entendent faire une place importante à la littérature. Et il y a des boîtes à l'intérieur de cette exposition dans lesquelles on peut entendre en français et en anglais des textes de grands auteurs, des Sheila Nietzsche en passant par Bataille, Léris, Conrad ou Eliot, des auteurs qui, chacun à sa façon, a inspiré Francis Bacon, que l'on va entendre ici aussi dans un court extrait d'un entretien.
J'ai jamais dessiné. Je commence directement sur la toile. J'attaque tout de suite la toile. Je fais un dessin peut-être avec la peinture. Mais si je dessinais, je n'arriverais pas. Les images ne sortiraient pas pour moi dans la même façon. Parce que, vous savez, le dessin est très cérébral. Pour vraiment employer le dessin, il faut avoir la notion exactement de ce qu'on va faire. Et pour moi, c'est toujours, si ça marche, c'est toujours quelque chose qui m'arrive. Je l'appelle accident.
Il y a déjà un débat sur l'appellation boîte que j'ai employée pour désigner des espaces dans lesquels on entend des lectures, mais c'est Sally Bonne qui va nous expliquer un peu plus précisément que moi, beaucoup plus précisément que moi même, le parcours de cette exposition telle qu'on l'a découvert les uns et les autres hier ou avant-hier.
Donc vous l'avez dit Arnaud, l'exposition se propose d'explorer les liens étroits entre la peinture de Bacon et la littérature en présentant une série de tableaux qui ont été réalisés à partir de 1971, c'est-à-dire à partir de l'exposition qui a eu lieu au Grand Palais. Le point de référence, donc, c'est l'exposition, et elle présente une soixantaine d'œuvres, dont 12 triptyques majeurs, dans un accrochage chronologique. Alors, on démarre l'exposition par 3 portraits, petits portraits. Un autoportrait de Bacon, un portrait de Michel Léris et un portrait de Jacques Dupin. Et ces 3 portraits sont entourés de 2 tableaux qui sont des jalons, en fait, dans l'exposition, puisque ce sont deux tableaux, pardon, l'un réalisé en 46 et l'autre en 62, qui ont en fait été refait par Bacon pour l'exposition de 71, puisqu'il n'avait pas pu les accrocher à ce moment-là. Donc il y a ces deux tableaux-là, en fait, qui présentent déjà ce moment de bascule que veut aussi montrer l'exposition, en dehors du rapport à la littérature, ce moment de bascule dans le style de Bacon, avec ses aplats de couleurs qui deviennent absolument déterminants, très lisses, très mat, très colorés aussi, et puis ces figures qui s'enferment progressivement dans des structures, dans des cadres, on va y revenir. Donc on pénètre dans l'exposition par cette pièce-là, puis on arrive dans une seconde salle absolument magnifique, avec 3 grands triptyques, qui sont les triptyques de 71, 72 et 73, qui sont très impressionnants, et absolument magnifique. Donc on retrouve ces corps qui envahissent l'espace qui leur est imparti, l'ombre comme ça qui semble couler de la peinture, ces corps qui sont à la fois écartelés, démembrés, et puis dont l'essence même semble couler, ou inversement peut-être être attrapé par la peinture elle-même. Ensuite, on rentre dans une vaste allée. Et dans cette vaste allée, le parcours est construit de telle manière qu'on a, moi je n'appellerais pas ça des boîtes, mais plutôt des chambres d'écoute, en fait, puisque ouais. Ce sont des grandes salles noires dans lesquelles on rentre et on entend, en fait, la traduction française quand ce sont des livres qui ne sont pas en français, notamment Eschyle, Nietzsche et Conrad. Mm-hmm. Et qui sont lus par des acteurs, et puis en version anglaise et en version française. Le livre qui est emprunté en fait directement à la bibliothèque de Bacon est présenté dans un petite boîte en plexiglas. La pièce est sombre, il y a un socle au milieu.
Une boîte dans la boîte.
Une petite boîte, oui. Ouais. Une petite boîte transparente. Vitrine. Donc la pièce est sombre et il y a un grand socle au milieu carré sur lequel on peut s'installer pour écouter. Alors les extraits sont très courts, en fait, ce sont vraiment des courts extraits qui ont été sélectionnés pour correspondre en fait avec des éléments des tableaux. Donc il y a un jeu comme ça qui se construit progressivement entre ce qu'on entend à l'intérieur mais où on ne voit pas les tableaux, à moins qu'on se mette à l'entrée, mais en fait on est dans cet espace un peu sombre, et quand on sort, on retrouve dans les tableaux de Bacon des éléments qu'on a plus ou moins entendus dans les textes. Donc on traverse cette vaste allée qui conduit en fait jusqu'à un autre très grand triptyque. Il y en a beaucoup, hein, des triptyques, il y en a 12, mais on arrive au bout de cette grande allée sur le triptyque de la reprise du triptyque de 1944, hein, qui est celui de la crucifixion, et qui date lui de 1988. Et puis on se tourne et on arrive au dernier tableau de 1992 et à la mort de Bacon, avec aussi une projection de quelques extraits de films où on voit Bacon dans son atelier, avec ce fameux atelier dans un chaos dont il revendique l'importance pour la peinture.
Reproduit d'ailleurs en miniature cet atelier.
Absolument, oui.
Petite maquette. Petite vitrine.
Oui, assez étonnant.
Très belle description. Chambre d'écoute, c'est ce que j'aurais dû dire. Vous avez merveilleusement dit. Un petit tour de table dans un premier temps rapide pour une impression sur cette exposition. Impression que vous allez développer, Corinne Rondeau.
Oui, j'ai un peu des réserves sur la scénographie, justement, texte, chambre d'écoute et peinture, mais c'est quand même un peintre qui bronche pas, quoi. J'ai changé de regard sur sa peinture, mais elle est impeccablement présente, c'est incroyable.
Frédéric Bonnet.
Oui, moi aussi, si je commence j'ai une réserve à émettre, qui est effectivement la présence du texte, qui est un argument, la littérature est un des arguments de l'exposition, et je le trouve trop peu traité et du coup frustrant. À côté de ça, Bacon est magistral.
Et ça, elle est bonne.
J'ai à peu près la même chose à dire, mais je voulais dire splendide parce que Bacon.
Développons. Alors, Corinne Rondeau, cette réserve.
Oui, en quelques mots, Frédéric l'a dit, c'est vrai que c'est une bonne idée dans la mesure où c'est aussi rappeler que les peintres ne sont pas que peintres. C'est rappeler aussi que la dimension de l'écrit ou de la lecture est aussi un élément de la peinture. en soi. Donc là, il y a une dimension un peu autobiographique. Voilà, les textes dont il a parlé. On a des films à la fin qui montrent sur les tranches des livres que c'est bien Eschyle, c'est bien l'Oresti, c'est bien, etc., etc. Alors, les textes sont faits. Alors, c'est très bien parce qu'ils sont courts. Autrement dit, le temps d'écoute est supportable pour tout spectateur. Donc, c'est une réussite pédagogique, on va dire. Genre, comment on tient quelqu'un. Il y a des choix dont je ne sais pas comment ils ont été choisis, parce que ça, on n'a pas d'indication. La seule chose que c'est, par exemple, T.S. Eliot, c'est le mois d'avril, et il est mort au mois d'avril. Donc, je pense que là, il y a une recherche. En fait, moi, j'ai lu tous les textes, et en fait, il y a tous les éléments. Le texte de Nietzsche sur la tragédie, la naissance de la tragédie, c'est la fête, c'est la tragédie entre le rêve et l'ivresse. Bataille, c'est un document sur les abattoirs. Bah, c'est le rapport que ça s'adresse à la fois aux spectateurs et en même temps à la viande. Ces spectateurs qui veulent pas voir la violence, alors que Bacon, bah, finalement, c'est de la violence. T.S. Eliot, c'est le mort et le vif, mais c'est aussi la terre vaine, ce poème magnifique qui parle de deuil, hein, l'enterrement des morts. Le Conrad, c'est au cœur des ténèbres. Et dans le texte, on entend je n'étais pas touchée, j'étais fascinée. C'est aussi une adresse aux spectateurs. Donc c'est autour de la question du visage. Et puis vous avez Eschyle sur la question du rite et du sacrifice, parce que bon, quand même, l'Orestie, c'est quand même la vengeance, le meurtre, le parricide, l'infanticide, etc. Et puis l'Eris, c'est évidemment le combat, le lutteur, puisque ça touche la corrida. Donc tous ces éléments, affect, viande, deuil, visage, rituel et combat, ce sont les éléments qu'on retrouve dans... Alors, c'est pas... il m'a pas semblé repérer exactement dans la sortie de la chambre d'écoute les tableaux qui correspondaient. Évidemment, quand il y a une sorte de corrida, il y a l'Eris en face, ok, ça marche. Mais comme en fait dans le catalogue, il est dit aussi qu'il ne cherchait pas l'illustration, pourquoi aller la chercher d'une certaine manière? Alors que les textes, finalement, entre eux, les choix qui ont été faits, relève à l'évidence de ce qu'on peut voir dans la peinture de Bacon, mais par ailleurs Bacon disait aussi, et c'est dans le catalogue, qu'en fait il lisait ces textes-là parce qu'il produisait une image immédiate en lui. Si un peintre qui lit ne voit pas d'image, c'est pas ce que c'est, donc c'est pas une révélation, et effectivement c'est de l'ordre du prétexte, mais c'est aussi une manière peut-être de rattacher les spectateurs à, je dirais, à une condition de création qui n'est pas celle de l'alcoolisme, l'homosexualité,
Ça change, en effet.
Voilà, donc il y a ça. Et il y a une manière aussi de prendre une temporalité, ce qui n'est pas toujours le cas dans les expositions. Donc c'est quand même plutôt positif, même si Bacon tient sans ça.
Frédéric Bonnet.
Oui, alors je ne vais pas revenir sur les arguments développés par Corinne, parce que je pense exactement la même chose. Et c'est vrai que quand je disais que c'est un peu frustrant ce rapport à la littérature, c'est que, bon, Bacon en toutes lettres, le titre est un appel, et que pour toutes les raisons que vient d'énoncer Corinne, je m'attendais ou j'aurais espéré qu'il y ait un peu plus que cette manière à la fois très efficace, mais en même temps très très sèche, mettre en scène ce lien et d'aborder ce lien à la littérature. Après, cette exposition en tant que telle, moi je la trouve assez remarquable dans les œuvres, évidemment, mais aussi dans la perspective et dans le point de vue qui est donné, parce que quand on fait une exposition comme ça, forcément on s'accommode un petit peu de ce qu'on trouve, parce qu'il y a forcément des prêts qui vous sont refusés, même si on s'appelle le Centre Pompidou, on peut pas avoir forcément tout ce qu'on voudra avoir, mais quand on s'appelle le Centre Pompidou, c'est aussi plus facile d'avoir certaines œuvres. Et là, ce qui est quand même assez remarquable dans l'exposition, c'est qu'il y a beaucoup de tableaux peu, voire pas du tout connus, qui sortent ou qui ressortent, notamment des tableaux dans lesquels le corps est absent. Le corps qui est quand même le donné premier dans le travail de Bacon, et on va y revenir parce que c'est fascinant, en particulier à le traitement qu'il en fait à cette époque-là, mais il y a beaucoup de tableaux presque paysagers avec des très très gros guillemets, une rue avec une voiture qui s'échappe. Là, on est carrément dans une scène de film presque. On a un arrêt sur image sorti d'un film. Donc, quand Bacon disait que Illy, ça lui crée des images, là, c'est exactement le cas. Il y a eu un truc et puis il a peint la chose. Et puis souvent des accidents qui se projette sur la surface picturale, tout en étant assez contenu. Il y a ce tableau incroyable qui s'intitule « Dune de sable », où la dune explose littéralement dans son affaissement, mais tout en étant contenu dans la structure de cage qui est éternelle à la peinture de Bacon et qui est encore là tout au long de l'exposition, mais aussi les jets d'eau. Et ce tableau, que moi j'ai trouvé absolument incroyable, qui s'intitule « Water from a running tap », donc de l'eau qui s'écoule d'un robinet, où la toile est presque vierge. Il y a à peine une toute petite zone qui est peinte, et il y a effectivement un robinet qui laisse s'échapper de l'eau et qui, pareil, devient un accident elle-même, un tourbillon, à la manière dont les corps, à certains moments, chez Bacon, vont se liquéfier et quitter le cadre dans lequel il les a enfermés. C'est des tableaux prodigieux.
Ça l'est bonne.
C'est d'ailleurs un des tableaux préférés de Bacon lui-même, qui disait qu'il avait réussi là, en fait, quelque chose qui ce qu'il recherchait était vraiment se retrouver dans ce tableau-là, dans ce tableau de robinet qui coule.
Alors, 1982.
Oui, alors moi, je partage quand même largement ce que vient d'évoquer et Frédéric et Corinne. J'ai trouvé que ce prétexte-là, alors on avait eu Bacon tout court, Bacon et les grands peintres, Bacon et la photographie, il manquait plus que Bacon et la littérature. C'est un petit peu ce qui apparaît à un moment donné. Parfois, on se demande, malgré évidemment l'existence de la littérature et l'importance de la littérature pour Bacon, c'était peut-être pas nécessaire de la réaffirmer, mais bon, elle y est. L'exposition n'a pas besoin de ça, en fait. Et la puissance des tableaux de Bacon est telle que finalement on est un petit peu troublé, et c'est peut-être ce qui me semble un tout petit peu problématique, c'est que Bacon ne cesse d'affirmer, Corinne a évoqué, ce refus d'illustration. Il parle d'un réalisme, d'une forme de réalisme qui vient s'inscrire dans ce qu'il appelle, dans un entretien qu'il a fait avec Duras en 71 justement, où il parle d'imagination technique contre la figuration justement. Et cette imagination technique, elle vient de la peinture elle-même, elle vient pas de quelque chose qui serait un élément qui permettrait en fait de représenter quoi que ce soit. Et donc, il me semble qu'il y a une sorte de contradiction à aller faire comme ça a été fait de temps en temps, d'aller chercher, je sais pas, il y a dans le texte d'Eliot, il y a une clé. Tout d'un coup, on a pas très loin un tableau où il y a une clé. Bon, il y a des tout petits, comme ça, des tout petits éléments de reconnaissance, en fait, entre les textes et les tableaux eux-mêmes, qui déconstruisent un petit peu ce rapport entre le réalisme qui est très puissant, enfin ce réalisme très particulier d'ailleurs, parce que c'est quand même un réalisme étrange, hein. Ce sont des corps écartelés, ce sont des figures qui se coulent, des corps qui échappent en fait, hein. Il y a quelque chose qui est vraiment chez Bacon qui relève d'une volonté d'échapper en fait au contour de la peinture et au contour du monde, et il me semble que ces contours-là, c'est la narration. Donc là, il y a quelque chose qui serait de l'ordre d'une contradiction.
Ah, Corinne Rondeau, une courte réaction.
Non, du tout.
Pardon,
c'est vrai
que le sommaire de l'émission a été un peu bouleversé.
La narration, un peu plus tard.
C'est vrai.
Oui, oui.
Je vous trouve au 20 janvier,
cette
exposition Bacon. Peut-être un biais ou un autre pour pouvoir en parler à nouveau. Autrement, parce que, bon, moi, j'adhère à plein de choses qui ont été dites ici, mais ma passion pour Bacon est intacte et sans doute plus grande encore après cette exposition, parce qu'on est quand même... Enfin, reste... tout à fait sidéré. Et là, vraiment, j'emploie le mot dans son acception originale, c'est-à-dire dans état. Pardon.
Non, oui, oui.
Allez, Corinne Rondeau.
Non, mais ce que je trouve bien,
c'est quand même...
Non, vous savez, il était passionné par Muybridge, la chronophotographie. Mais chez Muybridge, c'est pas comme chez Marais, les photos sont coupées. Il y a l'ellipse, et en fait, les triptyques fonctionnent sur l'ellipse. Et ça, c'est très bien, mais ils auraient dû s'en servir pour la question de la littérature. Ce qui est dommage, parce que là, c'était un élément interne et structurel entre la peinture. Parce qu'une ellipse, c'est que dans le triptyque, ça change, mais en fait... ce qui manque, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est là qu'il y a de la polysémie, c'est là qu'il y a... Voilà, le sens échappe, et en même temps, on est dans les flaques de mort, parce que, voilà, c'est une manière de peindre avec cette peinture qui est tellement pleine de vie, Arnaud Laporte.
Pleine de vie. Et elle est tellement pleine de vie que, même s'il y a un grand nombre d'œuvres présentées dans un espace qui n'est pas si grand, ça respire quand même, cette exposition. On a souvent dit qu'il y avait trop d'œuvres dans les expositions, alors il y en a beaucoup. C'est très dense. Non, mais je trouve que vous parliez de cette salle d'ouverture. Non, mais justement, ce que je dis, pas trop. Ça respire, l'accrochage est sobre. Et
Oui, mais en même temps, les tableaux sont justement tellement tenus en eux-mêmes que la peinture, elle est au millimètre près tenue d'une manière que forcément, même la grande quantité de tableaux fait que l'exposition effectivement respire, est aérée et se visite de manière assez magistrale.
On est d'accord. Bon, allez, Francis Bacon en toute la tête jusqu'au 20 janvier, au Centre Pompidou. Il y a un catalogue qui est édité par le Centre. Il y a aussi un livre que j'ai à peine commencé, mais qui m'a l'air assez passionnant, d'Yves Perret, chez Gallimard, qui s'appelle Francis Bacon ou La mesure de l'excès. Yves Perret qui était aussi un ami de Francis Bacon et qui, du coup, revisite son œuvre dans ce livre. À suivre dans la dispute, Ettore Spalletti, Hassan Hadjadj et cette mystérieuse page manquante.
France Culture, La Dispute, Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec Ettore Spalletti, Ombre d'azur dans un commissariat de Cristiano Raimondi. Ce sera un duo pour cette dispute. Sally Bonne et moi n'avons pas eu la joie d'aller au nouveau musée national de Monaco. C'est le titre complet de cette institution dont la programmation est quand même toujours d'excellence. On en parle régulièrement. C'est une occasion, si j'ai bien compris, de mieux percevoir la richesse du travail d'Ettore Spalletti, artiste italien né en 1940, qui a investi les trois étages de la Villa Paloma, qui a conçu 30 œuvres réparties en 7 environnements, vous vous préciserez dans un instant, des espaces pensés produits par l'artiste. On sait que c'est une recherche qui est ouvertement spirituelle, que Spalletti se nourrit des paysages qu'il voit par les fenêtres dans son atelier. En l'occurrence, ce sont les Abruzzes, donc des roses, des bleus et des surfaces en bois patiemment colorées. On va suivre les pas de Corinne Rondeau dans le nouveau musée national de Monaco.
Mais des pas feutrés tel un fennec, aux grandes oreilles, aux grands yeux. Oui, alors trois niveaux.
C'est une citation.
Et oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça.
D'accord, très bien. Je vous suis.
La Villa Paloma, alors c'est pas très grand, vous l'avez dit, il y a une trentaine d'œuvres qui ont été produites spécialement, mais aussi des œuvres anciennes et des collections des prêts de collections privées. Donc en fait c'est toujours, ce travail pour moi c'est vraiment de l'ordre de l'offrande pour la perception. Vous arrivez dans une première salle, moi je l'ai vue au mois de juin, donc j'ai un peu de mal avec la mise en place, mais la première salle dans laquelle on arrive du premier étage, celle dont je me rappelle, c'est une sorte de colonne mais qui en fait est un vase, derrière une fenêtre dont on a tiré un rideau, dont vous avez la mer derrière, mais ce rideau déjà atténue. Crée un voile et en fait la perception du travail de Spalletti, c'est vraiment quelque chose qui est poudré, il y a un poudroiement. Donc c'est des couleurs qui sont pastels en général, donc pour le dire techniquement on sait qu'il travaille sur bois, qu'il met un nombre de couches et de pigments considérables en impasto, qui ensuite il crée de l'abrasion et en fait c'est cette abrasion qui crée une sorte de coloris particulier. Et cette qualité atmosphérique de son travail, qui n'est ni de la peinture ni de la sculpture, mais les deux à la fois, c'est à la fois de la poussière et c'est à la fois de la couleur. Et vous avez comme ça une salle qui s'ouvre avec ce vase sur cette mer. Vous avez un tableau qui est un gris allant vers l'azur avec une grande bande d'or. Effectivement, il y a une sorte de dégradé, ça fait déjà paysage dans une abstraction, puisque c'est des zones monochromiques, il y a du monochrome dans le travail. Et puis vous avez une sculpture en albâtre, on a l'impression vraiment que c'est de la sépulture quasiment. Et puis dans une arrière-salle, vous avez la chaise zigzag de Rietveld, où il a déposé une rame de papier velin rose sur un carré de verre bleu outre-mer. Et là, si vous voulez, vous tombez par terre. Voilà. Vous passez la dimension dans l'espace est aussi une dimension de contraste
spatialisé. Et ensuite, vous avez d'autres salles à cet étage-là, où vous avez deux tableaux qui sont accrochés en asymétrie, et dont un est légèrement soulevé par un crayon qui a été taillé aux deux bouts et qui est tenu, donc ça soulève le tableau, et c'est juste un crayon qui surélève le tableau du mur. Ensuite, des monochromes, bon, on suit à l'étage, bon, et il y a une autre salle, hein, il y a une autre salle.
Oui, petit Fennec, on vous écoute.
Et
vous ne savez plus, si.
Non, il y a une autre salle où en fait vous avez 11 colonnes comme ça qui s'appellent Vado di Sole, je sors du soleil. J'ai pas compris comment il était arrivé. Non, vous tournez autour, vous passez du bleu au rose. Et en fait, quand vous êtes dans l'axe de la moitié de la colonne rose, il y a un tableau dans l'autre salle rose. Quand vous vous retrouvez du côté du tableau rose, dans l'axe de l'autre côté bleu, vous avez un tableau bleu. Donc, c'est des atmosphères, c'est de la spatialisation. Enfin, vous n'êtes jamais face à une chose. Vous êtes toujours en mouvement et donc vous êtes toujours dans un échange du volume et de la surface, du lumineux et de l'opaque, de la poussière et de l'architecture, du volatile et du dur. Enfin, bon, moi, je dois vous dire que c'est l'artiste dans lequel je me... Voilà, je suis en apesanteur. Le travail de Spalletti, c'est du paysage, mais c'est du paysage d'art. Et j'en ai autant de bonheur que la chapelle Scroveni de Giotto. Vraiment, ça me fait le même effet.
Bon, c'était une description dont on a compris qu'elle était aussi déjà une intervention critique.
Mais vous savez,
très bien faire. Frédéric Bonnet.
Oui, je ne peux qu'abonder dans tout ce que vient de dire Corinne. C'est le travail de Spalletti a ceci de fascinant que son mode de travail, qui est celui d'une concentration absolument extrême, parce que alors il y a un film que j'ai trouvé quand même assez pénible à regarder, mais qui explique bien son mode de travail. Son assistante ne doit pas rigoler tous les jours, parce qu'il faut que tous les jours elle prépare tout l'atelier avec tout exactement en place au millimètre près pour que quand le maestro arrive, il puisse s'asseoir et puis commencer à se concentrer sur ce qu'il va faire. Mais c'est assez remarquable parce que il s'assied, il regarde les œuvres qui sont déjà là, ce qui est en cours, il y a la lumière, il réfléchit, il regarde la lumière, la couleur et donc c'est un travail d'une extrême concentration et pour le visiteur aussi, c'est un travail d'une très grande concentration que de pénétrer l'œuvre de Spalletti. Je sais plus où elle est. Anyway, il y a eu une des salles que j'ai trouvé absolument incroyable. Ce ne sont que des diptyques rectangulaires d'un format à peu près équivalent. Et c'est des combinaisons, alors gris et gris, bleu et rose, bleu et bleu, rose et rose. Donc on passe comme ça de l'un à l'autre. On pourrait se dire que c'est quand même à mourir, mais c'est absolument divin. Et c'est surtout que le bleu n'est jamais bleu ou n'est jamais le même bleu. Le rose n'est jamais le même rose. Vous n'avez jamais deux fois la même teinte. Parce que Spalletti travaille toujours depuis 30 ou 40 ans et de la même manière. Il prépare un impasto, une poudre, une pâte qu'il fabrique avec des pigments et de l'huile blanche. Et puis il va briser ça, l'étaler sur la surface, et ensuite, une fois que c'est sec, alors déjà les délais de séchage varient, ce qui va donner une densité évidemment différente, mais en plus il y a le ponçage qui vient après, et alors ça peut aller relativement vite ou ça peut prendre des années. et ce qui fait que véritablement, vous pouvez de loin comme ça vous dire que vous voyez systématiquement, parce que sa gamme chromatique est quand même très limitée, hein, c'est le gris, le rose, le bleu, parfois le blanc, et encore pas très souvent. Donc on a quand même assez vite fait le tour, mais ça n'est jamais la même chose, et on n'a jamais deux fois la même teinte. Et cette manière d'aller rechercher la couleur à l'intérieur même de la couleur, pour créer une irradiation et une atmosphère, comme vous l'avez dit Corinne, moi je trouve ça assez prodigieux, sans compter que se rajoute un autre élément qui est de par cette surface qui a été poncée, il y a qu'on n'est pas autorisé à toucher évidemment, mais il y a quand même une sensualité qui se dégage de tout ça parce qu'il y a presque un effet de peau et que si on est attentif, encore une fois, je dis qu'il faut être concentré pour regarder ça. Mais de toute façon, l'atmosphère qui est créée vous amène à la concentration parce que c'est une exposition, c'est un travail qui n'est jamais bavard. C'est un travail qui ne vous dit rien, qui ne vous raconte rien. absolument
encore,
rien.
Encore
mais, voilà.
Bref, ça dit bon, on a très envie d'y aller. Hein. Oui. C'est jusqu'au 3 novembre. On peut aller voir Ettore et Spalletti.
Mais il faut y aller. De toute façon, Monaco fait des expositions dans ces deux petites villas qui sont pas rien. C'est toujours gigantesque ce qu'ils font, en fait. Mais pour dire... Là, non, mais... Spalletti dit qu'il atteint son but quand l'espace et l'œuvre se rejoignent comme une caresse. C'est pour rejoindre le côté...
La sensualité.
Et la sensualité de Frédéric.
L'exposition visible au Nouveau Musée National de Monaco, à Villa Paloma, et Ettore Spalletti, Ombre d'Azur, jusqu'au 3 novembre. Il y a un catalogue qui est coédité par le NMNM et Mousse Publishing. Salut Bonne se demande si c'est vraiment à elle, donc du coup ils rigolent, les micros se rallument, ils sont de toute façon complètement indisciplinés dans cette émission, j'ai renoncé à leur faire entendre raison. La page manquante, c'est le coup de cœur de Sally Bonne. Je vais même vous laisser dire absolument de quoi il s'agit.
Je dirais absolument de quoi il s'agit. La page manquante, c'est une exposition qui est une proposition d'un artiste qui s'appelle Renaud Auguste Dormeuil, en collaboration avec le commissaire d'exposition, critique d'art et actuel directeur du musée d'art et d'histoire de Genève, Marc-Olivier Valère. Et cette proposition se tient, et c'est une des particularités de l'exposition, au musée des moulages de l'hôpital Saint-Louis à Paris, qui est rarement ouvert, donc là c'est aussi l'occasion de le voir. L'exposition dure peu de temps, elle dure que jusqu'au 22 septembre. Et l'idée de cette page manquante, c'est une proposition faite à une toute petite trentaine d'artistes, de critiques d'art et de directeurs d'institutions, de proposer un ouvrage de leur propre bibliothèque dans lequel ils insèrent une page manquante qui viendrait réparer, entre guillemets, des erreurs, soit des erreurs historiques, soit des erreurs personnelles. Donc on peut interpréter cette proposition de différentes manières, qui est elle-même proposée par les deux commissaires, qui est effectivement soit de l'oubli, soit de la vengeance, soit du regret, soit un complément. Donc on a toutes sortes d'ouvrages, des livres, des catalogues d'expo, beaucoup, des essais, de la littérature, mais aussi des encyclopédies. On a des propositions qui relèvent de la réparation de l'oubli historique, par l'histoire de l'art elle-même ou par des historiens. L'introduction ou la réintroduction notamment de femmes dans des catalogues d'expositions collectives où il n'y en avait pas, ou dans des anthologies. Il y a d'autres propositions qui sont de l'ordre de la vengeance, sur des institutions artistiques qui dévoilent par exemple les dessous d'une affaire d'une exposition. L'introduction de l'artiste en tant que sujet du discours dans un essai théorique par exemple, ou pour certains, régler ses comptes avec un commissaire d'exposition ou un directeur de musée.
Des noms, on veut des noms, ça les bonnes, c'est tout.
Alors quelques noms, ou en tout cas quelques propositions, parce qu'ils sont quand même une petite trentaine. Par exemple, une image inédite qui n'a pas été insérée dans un catalogue d'exposition en cours d'impression pour des raisons personnelles, c'est Valérie Mregène qui propose une image qu'elle n'a pas mise puisque
elle n'en fait plus.
Les objets montrés en fait appartenaient à des proches qui n'ont pas voulu le faire, et elle pense elle imagine ça comme un geste subversif, pardon. Un autre, Paul Ardenne, qui insère une page à l'ouvrage de Svetlana Alexievitch, la supplication pour dire et regretter de ne pas avoir réagi à Tchernobyl. Julien Berthier, qui ajoute une page de l'encyclopédie pour enfants tout en images, qui est rééditée en 2004 et qui est consacrée au transport terrestre. Il y met une de ses pièces qui s'appelle Parasite, qui est un véhicule 100% dépendant d'autrui. Ou Cécile Paris, qui insère dans un catalogue de Magritte un de ces collages anciens, en fait, et qui, en proposant ça, le collage s'appelle « Le Jockey Perdu », oui, et qui, en montrant ça, en fait, révèle aussi l'importance de l'œuvre de Magritte, notamment pour le choix de ses titres. L'exposition est extrêmement simple, il y a quelques tables qui sont recouvertes d'un feutre vert sur lesquelles les livres sont posés, avec des petits cartels qui sont en carton avec un petit liseré et qui sont coupés au bord, qui sortent directement, en fait, des vitrines du musée des moulages. Et cette simplicité est un petit peu déroutante quand on arrive, mais en fait, elle invite évidemment à la lecture de chacune des propositions. Je ne peux pas citer tout le monde,
non.
Donc ils sont 30,
en
mais
effet.
Voilà, ne serait-ce que pour aller aussi voir le musée du moulage, l'exposition est assez singulière.
Là, j'avoue que le musée du moulage de l'hôpital Saint-Louis à Paris...
Ce sont des moulages dermatologiques, hein. C'est parfois assez éprouvant aussi. Hein. Mm-hmm. C'est des maladies de peau, quoi.
Ah bon ?
Oui, oui.
Bon, c'est jusqu'au 22 septembre, la page manquante.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
La dernière exposition à notre affiche, c'est une carte blanche à Hassan Hadjadj, à la Maison Européenne de la Photographie, qui a transformé l'institution pour l'occasion en Maison Marocaine de la Photographie. Vous connaissez le point commun entre Will Smith, Cardi B, Madonna et Gad Elmaleh. C'est qu'ils se sont fait tirer le portrait par Hassan Hadjadj. C'est vrai que toute la jet set se l'arrache, ainsi que le monde de la mode. C'est quand même un autre aspect, on va en parler, d'Hassan Hadjadj, qu'on peut découvrir à la MEP. Allez, faisons le tour de la Maison Marocaine de la Photographie pour comprendre un peu mieux ce parcours proposé par Hassan Hadjadj en vous suivant, Frédéric Bonnet, après le fennec. Je ne sais pas quel animal sera votre totem. À vous de voir.
Non, j'ai pas d'animal. Là, pour le coup, ça serait plutôt la boîte d'harissa ou de soupe, parce qu'on en mange quand même beaucoup dans l'exposition. Non, c'est pas.
On peut aimer la soupe.
Bien sûr.
Moi, j'aime beaucoup l'harissa.
Enfin, le cadre.
Moi aussi. Ouais.
Allons-y. Qu'est-ce qu'on voit dans la MEP ?
L'exposition occupe les deux niveaux de la MEP. C'est un parcours sur les 30 dernières années du travail de Hassan Hadjadj avec ses principales séries. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. Le premier espace dans lequel on rentre, c'est un travail qu'il a fait autour de la mode, parce qu'il fait aussi des vêtements. Ça s'intitule Vogue, the Arab Issue. Et il a mis en scène à Marrakech, endroit où on vient faire beaucoup de photos de mode, justement, des modèles qui sont pas des modèles occidentaux, ni des mannequins, ni des vêtements occidentaux, mais des modèles marocains portant des vêtements marocains. On reviendra, je pense, sur le fond de la chose, mais un des arguments sur ces séries-là, c'est de dire qu'on s'interroge sur le port du voile dans les pays arabes. Ça me semble un peu problématique que ça soit traité de cette manière-là, mais on va y revenir.
Oui, là, on est à la description.
Voilà. Avec... Ensuite, un deuxième espace. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que tous les travaux, alors c'est visuellement très efficace, hein, c'est hyper coloré, il a une science absolument consommée des mélanges de matières, de motifs, de couleurs, et que visuellement ça marche, ça tape, et c'est beau à regarder. Et il y a vraiment de très très belles images. Après, j'ai un peu plus de mal avec l'effet de groupe, mais ça aussi, on va y revenir. Voilà, on poursuit avec des images comme ça, qui aussi, il faut mentionner ça, sont toutes encadrées. C'est pour ça que je faisais référence au tube d'Harissa. Elles sont toutes encadrées avec des produits de consommation, des canettes de soda, des boîtes de conserve, donc des tubes, etc. Ce qui alourdit encore un peu plus les images qui n'en avaient peut-être pas besoin. À mon sens, ce qui est le plus réussi dans l'exposition, c'est la dernière salle, qui n'est peuplée que de petits formats noir et blanc. Et là, il y a des très très belles choses dans cette salle-là, parce que c'est moins tape à l'œil, c'est plus documentaire, c'est un peu moins travaillé, c'est très précis, et on voit que effectivement il est capable de composer des clichés sans abuser d'artefacts décoratifs. Il y a notamment de très très belles images sur lesquelles il pose des tapis sur des carrelages qui sont assez remarquables.
Aussi, vous avez fait description critique un petit peu en même temps, hein, Frédéric Bonnet.
Écoutez, on ne peut pas s'en empêcher.
Mais oui, mais c'est pour la clarté des débats, vous comprenez. Alors, un petit condensé de la critique que vous développerez ensuite en deux, trois mots, Salimone.
Coloré, gai, énergique, tout en apparence, jusque dans ses velléités polémiques.
Ça, c'est préparé. Hein. Corinne Rondeau.
Écoutez, il n'a pas costumisé un fennec, donc je suis assez triste.
D'accord, elle l'a préparé aussi. Frédéric Bonnet.
Ben oui, c'est un peu ce que j'ai dit. Je trouve ça un travail qui est visuellement tonique, mais qui devient terriblement répétitif.
Ça, les bonnes, allez, pour développer maintenant.
Alors.
Par quel bout on le prend?
Ça se veut pop et tradition. Enfin, mélange pop et tradition. Ça s'inspire largement d'Andy Warhol. D'ailleurs, c'est revendiqué. Ouais. Extrêmement revendiqué. On l'appelle d'ailleurs le Andy Warhol de Marrakech. On l'appelle aussi Andy Walou.
Andy Walou
signifiant « je n'ai rien » en arabe. Donc il s'inscrit en fait dans cette histoire-là, dans cette histoire du mouvement initié par Warhol, dans la réutilisation des codes, de la communication, du commerce, de l'art, de la mode, de la photographie. Il en fait beaucoup. Ce qu'a dit Frédéric, effectivement, les images sont très fortes, ça c'est vrai. Elles sont très fortes, elles sont très présentes, elles sont très colorées. Il y a une sorte de science quand même de la mise en, à la fois en espace de ces personnages, et en même temps. Donc sur la forme elle-même, bon, l'ensemble de l'exposition est volontairement kitsch et c'est plutôt très réussi, hein, puisque couleurs criardes, motifs superposés, 4D photos qui sont quand même très lourds parce qu'il y a avec ces insertions comme ça de dans des petits casiers en bois, des motifs supplémentaires des objets de la consommation, donc boîte de conserve, canette de soda, etc. Motifs de papier peint sur lesquels on trouve des petits chameaux, des théières à thé, des fesses de couleurs différentes, etc. Donc tout ça est extrêmement chargé et ça s'inscrit manifestement dans une volonté de polémique ou de critique qui est parfois un petit peu ambiguë. Donc l'artiste déclare bien aimé, provoqué et titillé, notamment sur la présence de la photographie de femmes voilées. Et en tout cas, c'est ce qu'on trouve dans ces textes et dans les textes qui sont proposés dans l'exposition. Il s'agirait de jouer sur le contraste, je le cite, détonnant d'un point de vue occidental que de représenter une femme voilée chevauchant une moto. Et je trouve que là, on arrive à...
C'est un peu court. Hein.
Voilà, on arrive à un petit point limite, en fait, de cette proposition-là. Parce que, en plus, avec cette idée qu'il y aurait une forme de liberté qu'il donnerait. Et là, je me suis retenue dans mon élan premier qui était de trouver ça effectivement très coloré et très gai. Et je trouve que sur cette question de la polémique, on est en fait une sorte de retrait en fait par rapport à une proposition qui serait un petit peu réflexive sur ces questions.
Bah, ça manque singulièrement de base de pensée. En fait, disons-le comme ça, Corinne Rondeau, ce qui n'enlève rien, je suis d'accord avec vous, sur la force, l'efficacité des photos,
On est d'accord avec l'efficacité, ça. Oui. Mais le trop, finalement, ça donne un peu mal au cœur aussi. Parce que quand j'entendais des gens qui se réjouissaient à l'exposition, c'est joyeux, c'est festif, c'est imaginatif, ouais. C'est d'une pauvreté par l'excès qui est c'est saisissant. En même temps, on peut dire qu'à sa nageage, c'est très bien costumisé, tout ce qui touche. Mmh. Et ça, c'est. Alors, on nous parle de multiculturalisme. Ok, l'hybridation, ça date des années 90. Et quant au pop, faut pas mélanger le pop de Warhol avec le pop qu'il fait. C'est-à-dire qu'il y a une intégration de la masse média à sa nageage. Il est lui-même une marque. Il est lui-même, je dirais, un média. Donc, en fait, il coste. Alors, il a enlevé tous les gens connus. Vous avez parlé de Madonna, ils n'y sont pas. D'accord. Alors, c'est les Marocains, c'est les potes.
Non, il y en a quelques-uns.
Non, mais moi, j'ai l'impression que quand même, je vois pas de Marocains. Je vois des gens costumisés par à nageage. Donc, si vous voulez, c'est son job, il fait de la mode par, je dirais, la dimension de la culture de la communication. Donc, pour moi, il n'y a pas de valeur culturelle autre que l'économie du dérivé, du produit dérivé, de la mode, du luxe. Et ce qu'on veut. Je veux dire, ça peut être sympa, mais effectivement, quand en plus vous avez un commentaire sur les femmes voilées, qui sont quand même avec des voiles de Louis Vuitton, ben vous enlevez Louis Vuitton, ça fait quoi ? Il faudrait se mettre à penser. Alors, comme si Simon Baker vient d'Angleterre où il n'y aurait pas ce problème.
Patron de la MEP.
Le patron de la MEP, puisque c'est un londonien, Ajaj. Donc, tout de suite, on voit le britannique décomplexé par
rapport. Le mythe du multiculturalisme qui marche en Grande-Bretagne. On sait quand même depuis un certain temps que c'est un mythe. Hein.
C'est un mythe, mais en même temps, il peut y avoir une manière décomplexée, justement, de proposer ça. Ouais. Le problème, c'est que quand vous montrez et vous dites ça. Je reviens à la question. Si vous enlevez les logos Louis Vuitton et tout ce qui est à hype, que redevient le voile ? Parce qu'il y a 50% d'images là-dessus.
Frédéric Bonnet.
Oui, les deux arguments qui sont avancés pour tenter de donner un vague fond à ce travail sont très très problématiques, voire ne tiennent pas répondre à la question d'un, et là je mets les guillemets, hein, donc c'est annoncé comme ça, un nouveau pop art aujourd'hui n'a absolument aucun sens. Je veux dire, quel est l'intérêt d'Andy Wallou à rejouer l'empilement des boîtes de soupe et des barils de lessive d'Andy Warhol? Absolument aucun, mais aucun. J'ai beau essayer de tourner la boîte dans tous les sens, je n'y arrive pas, je ne vois pas même le tube d'Arissa, je ne comprends pas. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, c'est effectivement cette question du voile et du hijab, exprimer un point de vue sur le port du voile en faisant un accessoire de mode. La première photo qu'on voit dans l'exposition, elle est hautement problématique. C'est donc un mannequin féminin devant une boutique Chanel qui est intégralement voilée. Donc effectivement, il y a des logos, des cœurs, des je sais pas quoi. Elle a des lunettes de soleil en forme de cœur, mais elle est absolument voilée. Et même ses yeux, on les voit pas puisqu'elle porte des lunettes de soleil. Et donc ça a beau vouloir remettre tout ça, rhabiller tout ça d'une générosité de marque, on va dire, et éventuellement festive, mais moi je trouve pas ça si festif que ça, et ça continue de me poser un problème, de même que dans la salle qui est juste derrière, il y a carrément une série qui s'intitule Hijab. Alors là, on vous explique que ça veut mêler tradition et mode pop. Là encore, mode pop, déjà, on m'explique. On est en 2019, il faudrait atterrir. Hein, mode et pop, enfin, on parle pas la même chose. Donc voilà, on a l'impression qu'on mélange un peu tout et n'importe quoi pour essayer de donner un vague fond socioculturel à quelque chose qui n'en a pas. Et en plus, en continuant de manier des notions assez problématique, voire dangereuse et explosive.
Ouais. Oui, notamment cette notion le terme décomplexé qu'a utilisé Corinne, il est dans les textes qui sont proposés, il est quand même extrêmement fort et il pose problème. Ce qui est proposé serait de l'ordre de la décomplexification. Merci. J'ai un doute, mais oui. Voilà, en tout cas.
C'est décomplexé, oui.
Non, et qui joue sur l'idée d'une forme de liberté qui passerait en fait par les codes, par l'utilisation des codes de la communication. Je pense qu'en fait on est pas loin de
prosélytisme.
Non, pas prosélytisme, d'une. Enfin, je trouve qu'il y a un fond de moquerie en fait, et je sais pas à qui il s'adresse. Et c'est là où je.
Non, mais le monde est merveilleux.
Après ça, vous faites l'as de la déco avec Valérie Damido.
Oui, non, mais c'est surtout se voiler la face. Du coup, je trouve que Murakami, finalement, c'est pas si mal, parce qu'au moins, il fait ses clowneries, il les met sur des sacs Vuitton, mais il a pas de discours. Là, ce qui est gênant, c'est le discours.
Le problème, en plus, au-delà du discours, et même si, effectivement, on est tous d'accord qu'il y a une efficacité visuelle, c'est qu'au final, là, vous vous enchaînez les deux étages de la MEP, vous en avez tellement vu que vous sortez de là, vous ne vous souvenez pas d'une seule image. Et c'est la même chose avec le catalogue. Très joli aussi, c'est très très bien fait, très très beau, mais vous enchaînez les pages et vous arrivez au bout du bouquin, vous ne vous souvenez pas d'une seule image parce que vous en avez soupé.
Elles sont toutes les mêmes.
Autre jeu de mots. Bon, cette carte blanche à Sanadjadj, allez la voir par vous-même à la Maison Européenne de la Photographie pour vous faire votre avis. C'est jusqu'au 17 novembre, ce catalogue qui accompagne l'exposition et publié aux éditions RVB. Il faut quand même noter, ça fait partie de la force, qu'après Paris, l'exposition va être présentée à Stockholm, New York, Tallinn et Londres. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Avant de conclure la dispute, l'heure du jeu avec David Dana. Corinne Rondeau arrêtait Petit Fennec d'embêter David Dana, qui va nous rappeler la question du jeu d'hier soir et me donner sa réponse.
En quelle année a débuté l'exposition Mondrian au Centre Pompidou Paris? Et la réponse est 2010.
Oui, ce soir, déjà, 2010. Ce soir, on gagne des places de cinéma pour le film Tu mérites un amour d'Afsia Erzi, qui est sorti aujourd'hui en salle. Quelle est la question?
Quel est le titre du premier court-métrage d'Afsia Erzi?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Comeau, Boris Pinot et David Dana. Prise de son ce soir, Jean-Frédéric. Réalisation, Alexandre Fougeron. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions. On se retrouve demain à 19h pour une dispute littérature. Je serai en compagnie de Lucille Comeau, Clémence Poletti et Philippe Chevillé. Nous parlerons ensemble du livre d'Aurélien Bélanger, Le continent de la douceur chez Gallimard, du livre de Tommy Orange, Ici et plus ici chez Albin Michel, du livre de Kevin Lambert, Querelle, au Nouvel Attila, et puis il y aura un coup de cœur de Philippe Chevillé pour Les Réfugiés de Viet Thiang Nguyen chez Bellefond.